Bonjour et bonne année à tous les auditeurs du Bien commun. L'année qui vient de s'écouler a été dominée par la question de la dette, et plus particulièrement par celle de la dette souveraine. Mais cette question fut abordée sous l'angle strictement économique, au point de négliger son autre dimension qui est juridique. Et on voudrait illustrer l'importance d'aborder la question de la dette par le droit par la question des fonds vautours. Ces fonds d'investissement se spécialisent en effet dans le rachat à bas prix de créances pour faire rendre gorge, pourrait-on dire, à des États qui sont souvent très pauvres. Et même si notre invité appelle les éboueurs de la finance internationale n'attire pas spontanément la sympathie, on parle aussi d'économie charognarde, leur rôle n'est peut-être pas aussi négatif que cela, à condition que leur activité soit réglementée. Et ces solutions à propos des fonds vautours dont nous allons parler aujourd'hui avec Alain Gauvin. Alain Gauvin est avocat, mais c'est un avocat qui est C'est un avocat qui écrit beaucoup dans des revues spécialisées et qui vient de publier un petit ouvrage aux éditions Milelli intitulé « Crise financière et la veuve de Carpentras dans tout ça ». Alain Gauvin, bonjour.
Bonjour monsieur Garapon.
Alors, vous êtes avocat, mais vous êtes un avocat qui est très proche de l'économie.
Absolument.
Est-ce que vous pourriez expliquer clairement à nos auditeurs qu'est-ce que sont que ces fameux fonds vautours ?
Ces fonds vautours, ce sont des investisseurs et qui ont pour vocation d'investir dans de la dette décotée, qu'elle soit de la dette émise par de l'entreprise ou de la dette émise par des États. La seule caractéristique de ces dettes, caractéristique commune, c'est qu'il s'agit de dettes qui sont rachetées à bas prix, de manière générale, à leur valeur réelle ou à la valeur que le marché veut bien leur donner, qui est forcément une valeur inférieure à la valeur faciale des titres lorsqu'ils ont été émis par les États.
C'est-à-dire qu'il y a un marché de la dette, ça c'est un peu...
Oui, il y a un marché, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire, oui, qui permet aux investisseurs primaires, ceux qui ont souscrit la dette lorsque les États ou lorsque les entreprises les émettent, puissent revendre ces dettes pour des raisons d'ailleurs tout à fait diverses, qu'il s'agisse de réaliser une plus-value sur les dettes souscrites, ou même de s'en défaire parce que les contraintes prudentielles qui pèsent sur ces investisseurs, par exemple les banques ou les OPCVM, les obligent à un moment donné, si la dette est décotée, à aller recéder sur le marché.
Vous accumulez des termes qui vont être compliqués à comprendre pour nos auditeurs. Est-ce que vous pourriez prendre un exemple ? Il y a un exemple que vous citez dans votre ouvrage qui est très convaincant et qui met d'ailleurs deux pays qui sont assez éloignés l'un de l'autre, c'est la Roumanie d'un côté et la Zambie de l'autre.
Alors, la Roumanie avait souscrit une dette de la Zambie qu'elle a recédée à un investisseur, le fonds Donegal. Le fonds Donegal a racheté cette dette pour 3 millions 200 000 dollars, une dette qui, en valeur faciale, en valait 29, en a demandé 55 millions au juge. Il en a demandé 55 millions au juge tout simplement parce que le fonds a considéré qu'il devait obtenir le remboursement du capital qui a été souscrit à l'origine par les investisseurs. Il en a demandé également ce fonds la rémunération et les intérêts, les pénalités de retard. Il en a obtenu au bout du compte 15 millions. Donc un effet de levier de 5 fois le montant de la souscription. Mais encore une fois, il s'agit d'une souscription d'une dette qui, au moment où le fonds l'a acheté, personne ne voulait sur le marché.
C'est ça. Alors, c'est pour ça que on parle des fonds vautours. Ce sont des fonds vautours qui s'emparent d'une mauvaise créance et qui font appel à un troisième acteur qui est extrêmement important dans les fonds vautours, c'est le juge. Et c'est le juge, notamment, voire exclusivement, le juge anglais ou américain.
Oui, alors, ça n'est pas l'objectif premier pour un fonds d'investissement, pour un fonds vautour, que d'aller devant le juge. En général, ces fonds souscrivent de la dette, discutent avec les États, essaient d'obtenir des intéressements de la dette en question par tout un tas de moyens légaux, mais en général dans le cadre de négociations. Et lorsque seulement les négociations échouent, alors ces fonds saisissent en général le juge de l'État de New York ou le juge anglais, en effet, pour pouvoir être désintéressés de la dette qu'ils ont souscrite.
Alors, ils ont très très mauvaise cote, sans mauvais jeu de mots, ces fonds vautours. Et notamment, il y a des associations, on aurait dit autrefois tiers-mondistes, c'est un peu péjoratif là aussi, mais qui réclament l'interdiction du marché secondaire de la dette et qui leur font porter l'entière responsabilité de la pauvreté des pays en difficulté. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Gauvin ?
Essayons de se situer sur un plan purement technique. On peut rentrer ensuite dans des débats.
C'est ça, on passera ensuite aux solutions, mais il faut bien être clair au point de vue technique.
Absolument. Sur le plan purement technique, voilà un État. La vraie question d'origine qui est posée est de savoir si un État peut se financer autrement que par l'impôt. Si on répond positivement à la question, elle est donc ensuite de savoir si un État peut souscrire sur les marchés, sur les marchés, donc emprunter ses ressources sur le marché. Si on répond positivement à cette question, l'autre question est de savoir si les États qui empruntent sur les marchés doivent être soumis ou pas aux règles de droit commun qui s'appliquent à tous les émetteurs. C'est ça la vraie question. Si l'on considère, et la réponse ne peut être qu'une réponse politique en revanche, enfin politique avec des considérations économiques. Par exemple, si on considère que le marché de la dette souveraine, le marché secondaire de la dette souveraine est interdit, pense-t-on raisonnablement que les États vont pouvoir se financer auprès d'investisseurs privés si ces derniers pensent qu'ils n'ont pas de chance de recéder leurs titres sur un marché auprès d'investisseurs qui sont prêts à prendre le risque ? C'est ça la vraie question. La réponse est a priori non. Mais c'est une question dont on ne peut pas s'affranchir parce que, évidemment, un fonds d'investissement qui souscrit de la dette d'un État en difficulté est a priori un investisseur cynique. En réalité, c'est aussi un investisseur qui permet à un autre investisseur de se défaire de sa dette, alors même que cet investisseur ne peut plus la conserver. Vous avez les règles prudentielles qui aujourd'hui s'appliquent aux banques, qui sont très sévères et qui obligent les banques à se défaire d'un certain nombre d'actifs en raison de la décote de ces actifs. Bon, alors que faire ?
Mais Alain Gauvin, est-ce que justement une des difficultés, et vous l'avez bien pointé, c'est lorsqu'un État cherche à se financer autrement que par l'impôt, il se privatise, il renonce à une partie de sa souveraineté nécessairement.
C'est le danger, et là il faut être également très concret, et il faut regarder les contrats qui sont souscrits par ces émetteurs. Souvent vous avez des clauses d'immunité de juridiction ou d'immunité d'exécution, clauses qui protègent l'État souverain en cas de non-remboursement de la dette qui l'a émise. Le problème, c'est que vu la tendance actuelle, le plus souvent, les contrats d'émission sont purgés de ces clauses. On a de moins en moins de clauses d'immunité de juridiction et d'immunité d'exécution, tout simplement parce que les investisseurs ne peuvent plus supporter ce genre de clauses.
C'est-à-dire que c'est la difficulté de raisonner sur ces questions des vaut-vautours, sur ce problème qu'il pose, c'est que, et c'est d'ailleurs comme ça que le stigmatise une ONG, disons, mais c'est pas les fonds vautours contre les pauvres États qui cherchent à se développer, c'est vautours intérieurs que sont les dirigeants, et des dirigeants souvent très peu scrupuleux et surtout très peu attentifs aux besoins de la population, et des vautours qui s'adressent à d'autres vautours. C'est vautours contre vautours, en quelque sorte.
Oui, ça c'est très intéressant, parce qu'on a peut-être un début de solution. La souscription de ces dettes de pays très endettés, très pauvres, par des fonds dits vautours, a pu mettre en exergue des pratiques de la part de dirigeants de ces États qui étaient des pratiques en violation de la loi. Bon. Et donc surgit mais une notion assez ancienne qui est la notion de dette odieuse. On pourrait considérer que lorsqu'une dette est considérée comme odieuse, alors, et le créancier ayant souscrit en connaissance de cause cette dette de nature odieuse, puissent ne pas être remboursées en cas de difficulté de l'État.
Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs en deux mots quelles sont les conditions? Qu'est-ce que c'est qu'une dette odieuse? Parce que c'est une notion qui est très intéressante et peut-être là on a une voie d'accès, une voie juridique et politique d'accès pour lutter contre les excès des fonds vautours, parce qu'on ne peut pas les condamner non plus en bloc.
Non, on ne peut pas les... Encore une fois, nous ne pouvons pas les condamner en bloc. La dette odieuse doit remplir trois conditions. La première, c'est que son émission a dû être décidée à l'insu contre la volonté du peuple. C'est-à-dire, le Parlement de tel État n'a pas pris la décision de procéder à l'émission de telle dette. La deuxième condition, c'est que cette dette doit être émise contre l'intérêt du peuple et dans l'intérêt en général des dirigeants qui gouvernent l'État en question. Et puis la troisième condition, c'est que les créanciers ayant souscrit cette dette le fassent en connaissance de ce que cette dette, premièrement, a été émise contre la volonté du peuple et deuxièmement contre ses intérêts.
Là, ce qui est très intéressant dans cette idée de dette odieuse, c'est qu'on retrouve finalement, c'est une manière de rendre vertueuse les pressions exercées sur un État. C'est-à-dire que on risque, je repense à la question que vous posiez à l'instant, savoir est-ce qu'on prêterait encore à des États s'il n'y avait pas de marché secondaire, on pourrait poser la même question. Si on généralisait la dette odieuse, qui irait faire du commerce avec des dictateurs?
Mais je pense que la généralisation de la dette odieuse n'est pas une démarche théorique. Il faut quand même remplir trois conditions très fortes, et notamment la troisième, qui est le créancier a souscrit en connaissance
Exactement,
de
cause. Mais tout le monde sait que, parlons, je ne sais pas moi, de la Corée du Nord, ou parlons de quelques États africains sans les nommer, tout le monde sait, les autorités publiques, que ces États sont pillés par les dirigeants, et que les dirigeants n'ont absolument pas en vue le bien-être, ni la santé, la prospérité de leur population. Donc, tout créancier averti ne prêterait plus d'argent à ces États.
Et est-ce que ça serait plus mal, finalement? Est-ce que ce serait plus mal, puisque, en définitive, les investisseurs auraient un signe clair que, en souscrivant la dette en question, ils ne rendent pas service à une population, voilà, mais aux dirigeants de l'État
Très
en
bien.
Question.
Et on retourne la pression des marchés que tout le monde stigmatise aujourd'hui et que tout le monde dénonce. Ça le montrerait, la dette odieuse est un mécanisme intéressant, ce qui permet de rendre vertueux et positif la pression des marchés, positif pour améliorer la démocratie ou le lien, ou le bien-être des populations, au-delà même de leurs dirigeants.
Absolument. Un créancier qui souscrit une dette de quelque nature que ce soit prend ses responsabilités. Et sa responsabilité, c'est le risque de ne pas être remboursé. Mais de ne pas être remboursé pour de bonnes raisons. Bon, à partir du moment où une dette est considérée comme odieuse avant même qu'elle soit émise, eh bien, il n'y aura pas d'émission de dette, ou plus précisément, il n'y aura pas de souscription de la dette émise par l'État en question.
C'est ça. Finalement, chacun prend ses responsabilités. C'est ce à quoi on peut rêver, ce qu'on peut espérer. C'est un monde où chacun prendrait ses responsabilités d'un point de vue financier, aussi bien le prêteur que le demandeur de prêt.
Oui, tout à fait. La question de la responsabilité est déterminante. Il faut aussi mettre en exergue un autre point, non pas pour plaider la cause des États en difficulté, mais qui est un point purement objectif, juridique. Vous avez des États donc qui ont accès, comme nous l'avons dit tout à l'heure, au marché, c'est-à-dire qu'ils se financent par les moyens de droit privé. En revanche, ils ne bénéficient pas de toute la protection qui est accordée aux emprunteurs de droit privé. Si une entreprise émet un jour et se retrouve en difficulté le lendemain, elle a la possibilité de se faire appliquer ce qu'on appelle chez nous le droit des procédures collectives,
en faillite.
Ça n'est pas possible aujourd'hui en droit international. Alors certes, certains États se trouvent sous la tutelle implicite de telle agence multilatérale, mais on n'a pas de droit protecteur des intérêts de la population qui permettrait, par exemple, de mettre en période d'observation tel État dans l'intérêt de la population sans lui faire perdre sa souveraineté et dans des situations bien particulières.
Mais alors justement, ce que vous dénoncez en quelque sorte, on ne peut pas mettre tout à fait sur le même plan le droit privé des entreprises et le droit des États. Pourquoi ? Parce que ce sont des États, ce sont des personnes publiques. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, et c'est d'ailleurs peut-être un peu ce qui se passe aujourd'hui, une organisation l'organisation des États africains, par exemple, pour ensemble être plus forts et lutter contre les excès des fonds vautours?
Alors, il y a une initiative très pragmatique qui a été prise par la Banque africaine de développement il y a maintenant 2 ans, la mise en place d'un fonds d'aide à ces États pauvres très endettés, et qui présente 2 aspects. Un premier aspect d'assistance technique, c'est-à-dire que la banque va financer des cabinets d'avocats, des consultants, et apporter une aide juridique à ces États en amont, c'est-à-dire avant l'émission de la dette, pour la négociation des contrats avec les investisseurs, et puis en aval, lorsque ces États sont poursuivis en recouvrement de leurs dettes par les investisseurs, qu'ils soient fonds vautours ou autres. Et le deuxième aspect est une aide financière, puisque la Banque africaine de développement peut allouer une enveloppe à tel État pour se payer, d'une manière générale, c'est l'objet de ces enveloppes, tel cabinet d'avocats pour l'aider dans la restructuration de sa dette ou en défense de toute action menée par les fonds.
Je remarque, Alain Gauvin, que vous parlez beaucoup des juristes, vous êtes un des rares à parler et à mentionner, à souligner, voire à dénoncer le rôle des juristes dans la mondialisation financière. Rôle qui est un peu inconnu. On s'intéresse plus à ces mécanismes très compliqués dans le fond, et beaucoup ont du mal à en saisir toute la complexité. Mais cette complexité, elle a été organisée par des hommes de loi.
Oui, complètement. Enfin, il est très important de savoir que tout ce dont on parle d'opérations de financement structuré, de titrisation, de CDS, de titres synthétiques, repose en réalité sur la technique du contrat. Donc, en amont, la problématique est juridique. On émet de la dette que si un support existe, et ce support, c'est le contrat, et c'est un instrument juridique.
La dette est un instrument juridique. La dette est une notion juridique.
Absolument. C'est l'obligation du code civil. Et en aval, également, la problématique est juridique. Elle devient même judiciaire. Donc, de bout en bout, le juriste est présent, pour le meilleur, on l'espère, parfois pour le pire, dans la structuration financière, qu'il s'agisse des dettes d'État ou des dettes d'entreprise.
Mais est-ce que c'est pas un des problèmes d'ailleurs? Parce qu'on pourrait dire, que font les fonds vautours? Ce sont ils remplissent la fonction d'huissier de la mondialisation. C'est eux qui viennent exécuter, demander l'exécution des prestations contractuelles. Mais le problème, c'est qu'on a ce que, d'ailleurs, en finance, on appelle le cross-sector risk, le risque à changer de secteur. Là, il y a un problème de fond que je vois, c'est la manière dont les fonctions juridiques, qui sont des fonctions assez particulières d'une société, sont mêlées, sont confondues avec des intérêts financiers. Est-ce que c'est pas une des difficultés, Alain Gauvin?
On ne peut pas faire autrement que de faire intervenir des juristes dans la réalisation des opérations financières.
Le notaire, il n'a pas un intérêt, c'est pas un acteur financier, c'est un notaire précisément. Alors, il est intéressé bien sûr aux opérations, mais il ne s'est pas transformé en un investisseur financier. Or aujourd'hui, c'est un peu cette confusion, cette fusion du juridique et de l'économique auquel on arrive au bénéfice de l'économie.
D'abord, vous avez ce qu'on appelle des notaires d'affaires qui ont pour vocation ou pour mission de participer à la structuration de grands financements immobiliers. Vous n'avez pas une tour à la Défense qui est sortie du sol sans l'intervention d'un notaire à côté d'avocats. La question de... Je pense que le problème n'est pas celle de l'intervention du juriste ou de l'avocat dans une opération financière. La question est beaucoup plus celle des modalités de cette intervention ou des points de vue pris par les avocats ou les juristes en question. Le rôle du juriste est d'interpréter une loi pour faire en sorte que l'opération dont il est saisi se réalise. Alors, la question ensuite est de savoir jusqu'où peut aller le juriste dans l'interprétation de la loi ou de la non-loi, lorsqu'il n'y a pas de loi, pour permettre la réalisation de cette opération, puisque, par hypothèse, le juriste est mandaté par un client qui le paye pour la réalisation des services qu'il fournit. Bon, donc la question est plus une question, je pense, d'éthique du juriste et de l'avocat conseillant l'opération que de l'intervention elle-même qui, de toute manière, est impérative.
Alors, une idée qui est avancée par des ONG, c'est de dire il faudrait qu'il y ait une juridiction supranationale pour pouvoir mettre en œuvre de manière plus déterminée cette notion de dette odieuse qui a été mise en imaginée par un juriste anglais, par un juge anglais d'ailleurs, mais sans beaucoup de prospérité ensuite. Est-ce que vous y croyez, vous, à une juridiction internationale?
Là aussi, une dimension politique et une dimension technique. Dimension politique, est-ce qu'on est pour que les États se détachent d'une partie de leur souveraineté? C'est la vraie question qui a été posée et renouvelée lors de chaque G20, chaque année. La question a été clairement posée lors du G20 du mois d'avril en 2009, puisque les mesures qui étaient préconisées par le G20 à l'époque invitaient forcément à un abandon, même partiel, de souveraineté de chacun des États. Et ça, pour moi, c'est la question cruciale sur le plan politique. Est-ce que l'on est pour? Et ensuite, sur le plan technique, est-ce que c'est possible? Il faudrait que ce soit possible. Il faudrait que ce soit possible parce que l'on voit bien que ce qui se passe en Italie, finalement, recèle en quelque sorte une perte de souveraineté de l'État italien en faveur de la vie des marchés. Puisqu'il a fallu, en réalité, la pression très forte des marchés pour qu'un nouveau gouvernement soit formé et qui soit constitué par-dessus le marché par des ministres beaucoup plus techniciens comme politiques. Donc, est-ce qu'il ne vaut mieux pas que les États décident eux-mêmes d'un abandon d'une partie de leur souveraineté ou qu'ils se fassent piquer leur souveraineté par les marchés ou les investisseurs?
Mais vous avez déjà répondu à la question au début de l'émission en disant à partir du moment où un État décide de se financer autrement que par l'impôt, c'est-à-dire autrement que par un prélèvement sur ses richesses naturelles, à partir du moment où il emprunte, il abandonne sa souveraineté.
En effet, je crois que le problème se situe sur ce plan-là. Dès lors que l'État emprunte sur les marchés à la manière d'un débiteur, d'un émetteur de droits communs, il abandonne de fait une partie de sa souveraineté, sauf à imaginer un corps de règles dérogatoires qui permettent à cet émetteur d'échapper au droit commun, mais encore faudra-t-il que les investisseurs soient intéressés.
Bien sûr. Alors, ça veut dire que d'ailleurs, ça donne tout à fait la cohérence de notre conversation, c'est que le seul motif légitime acceptable pour lequel un État pourrait se abdiquer d'une partie de sa souveraineté pour se financer sur les marchés, ça serait pour son propre développement. Et dans le fond, la dette odieuse, c'est quoi? C'est de la dette odieuse, c'est une manière de dire, si votre emprunt n'est pas référé à un développement, n'est pas référé au bien-être de votre population, il ne sera plus couvert, il ne bénéficiera plus des règles normales du droit privé.
Absolument. Si l'on est démocrate, alors on doit considérer que le principe qui doit gouverner cet ensemble est le principe du droit ou de l'intérêt général, du droit des peuples. Dès lors qu'une dette est décidée par un État à l'insu, contre la volonté, contre l'intérêt, que sais-je encore, du peuple, cette dette doit être considérée comme illégitime. Mais on part d'un postulat de départ qui peut sembler complètement acquis pour tous, qui est que l'État doit être un État démocratique, sinon ça ne marche pas.
Mais c'est tout le paradoxe d'ailleurs de notre vie internationale aujourd'hui, qui est fait de finances et qui est fait d'État, démocratique, États qui ne sont pas démocratiques. Alors il y a aussi une proposition du Congrès américain ou du Sénat qui a voulu lutter de manière déterminée contre les fonds vautours.
Oui, on a plusieurs propositions. Cette proposition, à ma connaissance, est complètement enterrée,
oui.
Qui consistait à encadrer...
Mais elle était intéressante parce qu'elle imaginait un mécanisme pour lutter contre les fonds vautours.
Oui, c'était une lutte, mais c'était d'abord un encadrement. Un encadrement en faisant en sorte que de plafonner les plus-values, et je crois que c'est le principe essentiel de la proposition, de plafonner les plus-values pouvant être réalisées par des investisseurs sur le marché secondaire en souscrivant et en revendant cette dette souveraine. L'une des propositions consistait également à divulguer le nom des personnes qui pouvaient être intéressées par une procédure judiciaire contre un État souverain. Bon, on n'a pas vu le jour de ce projet de loi, de cette proposition de loi, et je doute qu'on puisse l'avoir un jour, car il s'agit d'une proposition quand même qui est très très théorique. D'autres propositions intéressantes, peut-être plus pragmatiques, ont été mises en œuvre, ont été proposées et qui me semblent beaucoup plus réalisables.
Comme par exemple
la loi belge, en vertu de laquelle il est interdit de saisir une aide toute somme résultant d'une dette de l'État belge à un État pauvre. Les fonds vautours en question, pour se faire rembourser de la dette qu'ils ont souscrit, sont en mesure de saisir tout actif de l'État débiteur en question. Et donc, lorsque ces États en question reçoivent une dette de l'État belge, eh bien, ils ne pourront plus la saisir. Parce que la Belgique a pris l'acte de souveraineté de décider que toutes les aides qu'elle accorde à ces États ne peuvent pas être saisies. Ça me semble une non pas seulement une proposition, hein, une loi tout à fait réalisable. Il y a aussi récemment la Haute Cour d'appel de Hong Kong qui a pris une décision considérant que les fonds, vautours ou pas d'ailleurs, les investisseurs ayant souscrit de la dette et qui ont obtenu un jugement favorable, que ce soit à Londres ou à New York, pour se voir désintéressés de leur dette, ne peuvent pas l'exécuter à Hong Kong sur des actifs appartenant à l'État en question.
C'est ça. On a une sorte de retour second de la souveraineté à travers la capacité de saisir la saisie des biens. Et alors là aussi, on voit toute l'ambiguïté de l'attitude américaine. C'est quand même temps qu'il y avait cette proposition pour plafonner les intérêts des fonds vautours, les intérêts des dettes recouvrables. En même temps, une autre proposition de loi organisait une sorte de pression maximale pour respecter les décisions de la justice américaine.
Oui, très cyniquement, on peut considérer que l'autre proposition qui consistait à interdire à tout État d'emprunter sur les marchés de capitaux américains dès lors qu'il n'avait pas respecté une décision de justice américaine au-delà d'un certain montant, 100 millions de dollars, on peut considérer qu'il s'agit d'un équilibre technique. Une protection ne va pas sans une part de responsabilité de l'autre côté. Moi, j'y vois beaucoup plus le conflit entre lobbies pour faire en sorte que chacun y trouve son compte.
Mais dans ce conflit, malheureusement, c'est pas les lobbies du contrôle des fonds vautours qui l'emportent.
Non, pour l'instant non, mais j'ai le sentiment que ça commence à changer. Une initiative, certes récente, qui est celle de la Banque africaine de développement, est une initiative très concrète. La position de la Cour d'appel de Hong Kong n'était pas aussi évidente que ça, puisque la Cour d'appel de Hong Kong a considéré que la souveraineté et l'immunité de juridiction et d'exécution devaient s'entendre au plein sens, de manière très très large, ce qui n'était pas du tout évident depuis l'indépendance de Hong Kong.
C'est ça. Alors, et vous, Alain Gauvin, on termine par votre solution à vous. Vous connaissez bien ces dossiers. Vous avez en double qualité d'avocat et qui monte des opérations financières. Quelles seraient pour vous les pistes dans lesquelles il faudrait réfléchir? D'abord sur les fonds vautours et ensuite peut-être une question sur les juristes. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que les juristes mettent à disposition des États des juristes qui soient un peu éloignés des marchés des grandes law firms américaines?
Alors d'abord, sur les fonds vautours, des solutions qui honnêtement procèdent plus de l'intuition que d'un raisonnement ou d'une analyse très fouillée, parce que les considérations sont évidemment pas seulement juridiques, elles sont économiques, politiques, et puis elles sont morales, c'est-à-dire à quelle morale veut-on bien adhérer. Je crois qu'on les a dessinées au cours de cet entretien. Un, la notion de dette odieuse, qui est une notion à mon avis pragmatique et qu'on doit pouvoir appliquer de manière assez aisée. La deuxième, à mon avis, serait la mise en place d'un droit des faillites des États, un droit des faillites des États qui permette d'accorder la protection à tel État qui traverse une passe difficile, mais qui la traverse de façon légitime, non pas pour des raisons de laxisme budgétaire, par exemple, et de protection très souvent des États dans l'intérêt des peuples et contre les intérêts personnel de leurs dirigeants. Sur le rôle des juristes, on ne fera pas l'économie de l'intervention des juristes, qu'ils soient des cabinets américains, anglais ou français. Il y a de toute manière une mondialisation de l'intervention des cabinets d'avocats sur ce genre de structure. Dès lors que l'émission d'une dette repose sur un contrat, il n'y a pas mieux placé qu'un juriste pour le rédiger.
Eh bien, Alain Gauvin, merci.